Alors je vais prier. Père Céleste, nous voulons t'inviter, nous voulons parler de toi, avec toi et entendre de toi. Merci de toucher notre cœur, de toucher notre intérieur, d'être avec nous ici et de te révéler peut-être un peu plus. Moi, j'ai beaucoup aimé préparer ce que j'ai préparé et je te remercie. Merci Jésus. Amen. Alors, je commencerai par une devinette. J'aimerais savoir ce que vous allez trouver. Je vais parler de celui qui me fait parler. De qui ?
C'est un âne qui a parlé.
Pardon ?
Non, un âne.
Non. Merci.
Dieu a fait parler un âne.
Oui. D'accord. Oui, je pense qu'il a fait parler un âne. Mais effectivement, Laetitia a dit le mot. Je veux parler du Saint-Esprit. Et c'est un vaste territoire, ça. C'est vraiment... ça me bénit. Alors, on commence par le passage où Jésus annonce qu'il viendra. En Jean 16, 7 à 16, on va lire tout le passage. Et après, je reviendrai par morceaux aussi là-dedans. Donc, Jean 16, 7 à 16. Alors, Jésus dit, « Toutefois, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais, le Consolateur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand celui-là sera venu, il convaincra le monde de péché et de justice et de jugement, de péché parce qu'il ne croit pas en moi, de justice parce que je m'en vais à mon Père et que vous ne me voyez plus, de jugement parce que le chef de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les supporter maintenant. Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses qui vont arriver. Celui-là me glorifiera, car il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce qu'a le Père est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend du mien et qu'il vous l'annoncera. Alors, d'abord, Jésus disait qu'il était nécessaire qu'il parte de la terre au moment où il a dit ça, pour que le Consolateur puisse venir parmi nous de sa part. Et au moment où il disait cela, Jésus est le Consolateur, c'est-à-dire Fils et Saint-Esprit se trouvaient tous deux unis sur terre. Probablement, le Saint-Esprit ne s'était pas limité volontairement comme Jésus l'avait fait en tant que Dieu. Et le Saint-Esprit restait doté de tous les attributs de Dieu. Et je peux imaginer que ni les anges, ni les démons, ni les hommes pouvaient nuire au Saint-Esprit. Tandis que les hommes et Satan, à ce moment-là, pouvait nuire à Jésus dans son état d'humiliation. C'est, je comprends ça comme ça. C'était un moment très particulier. Et actuellement, Jésus, homme crucifié, qui est toujours vivant, puisqu'il est ressuscité et ascendu au ciel, on dit ascendu, je crois, hein, monté au ciel, d'accord. Il n'est plus limité, ni physiquement, il n'est plus physiquement parmi nous, en apparence en tout cas. Mais je peux m'imaginer, peut-être c'est quelque chose de fou ce que je dis, je peux m'imaginer que Jésus pourrait venir physiquement ici dans son état de ressuscité, être et nous toucher, nous parler, nous encourager. Jésus personnellement, je peux m'imaginer. Et actuellement, nous n'avons plus besoin du Dieu dans son humiliation. Nous n'avons pas besoin de Jésus qui s'était limité à être un homme. C'est pour ça, c'est avantageux que nous ayons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Jésus et Dieu le Père sont un. Et bon, j'ai un truc que j'ai tiré comment ça s'appelle le livre théologie systématique, je crois. C'est un livre comme ça. C'est un dessin assez intéressant où on voit le centre, c'est Dieu. Après, nous avons le Père, n'est pas le Fils. Le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Le Père n'est pas le Saint-Esprit. Mais tous les trois pointent vers ils sont Dieu, si vous voulez le faire circuler. Ça. C'est juste, c'est une belle illustration du fonctionnement de la Trinité. Maintenant, le Saint-Esprit parle non pas de son propre chef, comme on a entendu, mais tout ce qu'il aura entendu du Père et du Fils, les trois sont copropriétaires de tout l'univers, de tout, puisqu'ils sont Dieu. Voilà. Alors, je reprends parce qu'il y a des choses un peu bizarres dans ces versets. Quand celui-là sera venu, il convaincra le monde. Alors, la parole de Dieu, qui, selon Éphésiens 6:17, est l'épée de l'esprit, donc c'est la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit, est d'une grande puissance de conviction. Et je pense, par exemple, dans un tribunal, quand les avocats ou le procureur parlent, par leur parole, ils ont aussi une grande puissance, mais c'est encore plus puissant pour la parole de Dieu, hein, en comparaison. Épée de l'esprit. Et de quoi convaincra-t-il le monde ? De péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Ce qui veut dire ne pas croire en Jésus est le péché qui condamne. C'est l'évangile très simplifié. Il faut que nous croyions en Jésus. Et ensuite, de quoi d'autre ? De justice, parce que je m'en vais à mon Père et que vous ne me voyez plus. Ça, c'est un peu curieux, ça, quand même. Quel rapport avec la justice ? Alors, le commentaire que j'ai trouvé, c'est que le Saint-Esprit convainc les hommes de leur mauvaise conception de Jésus, lorsque l'évangile qui met l'accent sur la résurrection est proclamé. Donc, l'évangile sans résurrection, ça n'a aucune valeur. Et c'est ça le centre de l'évangile, c'est que ça nous donne l'espérance de ressusciter. Et 1 Corinthiens 15, 3 et 4, Paul nous l'a très bien écrit, ou très bien dit, je ne sais pas, quelqu'un, il avait un secrétaire qui écrivait aux Corinthiens. Alors, 1 Corinthiens 15, des 3 et 4. « Car je vous ai communiqué avant toute chose ce que j'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il a été ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » Ça, c'est vraiment résumé tellement précis, tellement profond, l'Évangile. Voilà. Ensuite, de quoi d'autre ? Et de jugement, parce que le chef de ce monde est jugé. Ça, nous le comprenons facilement. C'est Satan, le prince de ce monde, est jugé. Et puis, j'ai trouvé... c'est un verset que j'avais déjà remarqué il y a longtemps, ça. Romains 8, 11. Et c'est tellement, tellement poignant, ce verset. Et Romains 8, 11... Il dit, et si l'esprit en majuscule, de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts, vivifiera vos corps mortels aussi, à cause de son esprit qui habite en vous. Vous vous rendez compte ? Nous avons le Saint-Esprit, c'est lui qui va permettre que je ressuscite, je crois, je vais ressusciter, et mon corps mortel va être revivifié, il sera sûrement, et oui, c'est Corinthiens 15 nous explique comment on est ressuscité, comment on pourrait être ressuscité. Et moi, je vous recommande vraiment de voir Romains 8, tout le chapitre, combien c'est édifiant pour nous, Romains 8. C'est le rapport entre ma nouvelle nature et l'ancienne nature. Et la chair et l'esprit, mais l'esprit est mis en avant. Et vous savez, à travers Romains 8, 11, je comprends que Dieu le Père a envoyé son esprit, le Saint-Esprit, ressusciter son Fils, Jésus. 100% homme mis à mort, mais 100% Dieu. Et ce qui me fait dire aussi que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont tous impliqués dans ma résurrection et dans votre résurrection. Dans son épître, Pierre, 1 Pierre, le premier verset, il est dit que nous sommes élus par la Trinité intégrale. 1 Pierre 1. Pierre, 1 Pierre 1, le premier, le 1-1, oui. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux de la dispersion du Pont, de la Galatie, de la Cappadoce, de l'Asie et de la Bithynie, qui séjournent parmi les nations, élus selon la préconnaissance de Dieu le Père, en sainteté de l'Esprit pour l'obéissance à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Nous avons la Trinité résumée là-dedans, dans ces deux versets. Évidemment, la promesse de Jésus que nous avons lue en Jean 16, avant qu'il ne soit crucifié, il a dit ça. Et elle a commencé à se réaliser dès la Pentecôte, en acte 2, versets 2 à 4. Et il se fit tout à coup du ciel un son, comme d'un souffle violent et impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et il leur apparut des langues divisées comme de feu, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'énoncer. Ce que je ne sais pas si j'ai raison, mais c'était l'unique fois que la Bible mentionne qu'on ait vu quelque chose quand le Saint-Esprit a été donné. Les langues divisées comme de feu qui se posèrent sur chaque personne. Ça devait être phénoménal, je peux m'imaginer ça. Ouais. Bon, autrement, il y a des passages où il est question de bruit, de tremblement lorsque ça s'est passé. Et il y a eu des interventions du Saint-Esprit durant l'expansion de l'Évangile. C'est lui qui donne la direction à prendre. Et il nous donne aussi la direction à nous. C'est lui qui permet, qui empêche ou qui approuve ou désapprouve un projet que nous pourrions avoir. Mais son but principal, c'est de nous faire témoigner de Jésus. Nous lisons ça en acte 1, 8. Mais vous recevrez la puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout de la terre. Le Saint-Esprit est invisible, mais je dirais qu'il peut être détecté. C'est comme le vent, d'ailleurs. On sent quand il y a du vent. Et le Saint-Esprit, on peut reconnaître, c'était lui qui... Et moi, je crois qu'il m'a mis à cœur de parler de lui, alors ça vient de lui. Et nous lisons quelque chose d'intéressant à Galates, la fin du passage où le fruit de l'Esprit est décrit. Au verset 23, il est dit « Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. » Ça me fait dire que, comme il est une personne, il est supérieur à la loi. Il peut la changer s'il veut. Et en réalité, le fruit de l'Esprit, comme Paul le décrit, c'est ça la loi parfaite, le fruit de l'Esprit. Hein. 5:23, Galates 5:23. Oui, mais le fruit de l'Esprit est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Et c'est, vous voyez qu'il n'y a que du positif là-dedans. Le fruit de l'Esprit, c'est que positif. Dieu n'est que positif pour moi. Ouais. avant d'avoir reçu le Saint-Esprit dans nos cœurs, aurions-nous dit « Amen » au verset que je vais vous lire, en 1 Corinthiens 2, versets 9 à 13. Ça, c'est tellement beau. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Ces choses, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, l'Esprit majuscule, car l'Esprit majuscule, toujours, sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit en minuscule, de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit en minuscule du monde, mais l'Esprit majuscule qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Quel cadeau! Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit en majuscule, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Vous pouvez dire amen à ça ? C'est tellement beau. Et je veux faire un peu une description qui peut paraître curieuse, mais le Saint-Esprit, il est le porteur de notre arme spirituelle. C'est lui qui manie cette arme, en fait. Et je reviens au passage en Éphésiens 6, 17, qui dit « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, l'Esprit en majuscule, qui est la parole de Dieu. » Et cette parole de Dieu, c'est une arme tellement aiguisée. C'est l'outil de Dieu que j'appellerais psychospirito-chirurgical. N'est-ce pas? Il va très profond et nous lisons ça en Hébreux 4, 12, que vous connaissez certainement. Car la parole de Dieu est vivante, la parole de Dieu, nous venons de lire, l'épée de l'Esprit est la parole de Dieu, est vivante et opérante et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants et atteignant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Voilà. Une bonne moitié de fête. OK. Vous vous ennuyez pas? Non, ça va. OK. Le Saint-Esprit, il donne de la hardiesse pour témoigner de Dieu. C'est très important pour nous que nous soyons hardis. H-A-R-D-I-S, pour Dieu. Et c'est, à mon avis, c'est un excellent signe d'être rempli du Saint-Esprit, cette hardiesse. Pierre et Jean, en acte, on va voir la fin après de ce passage, Pierre et Jean, après avoir guéri un malade, ils ont dû se défendre face aux religieux juifs. Et ça se termine en acte 4, 31. C'est pour ça que je dis la hardiesse. Et comme ils faisaient leurs supplications, parce qu'ils étaient tellement contents que les religions n'avaient plus rien à leur dire. Hein. Et c'est dans ce passage qu'il est dit, faut-il obéir aux hommes, à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et en Acte 4, 31, et comme ils faisaient leurs supplications, le lieu où ils étaient assemblés fut ébranlé, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec hardiesse. Le Saint-Esprit révèle aussi qui s'oppose à lui. En tout cas, ça s'est passé pour Pierre. Pierre a reconnu, et il n'aurait pas pu reconnaître ça sans le Saint-Esprit. L'histoire d'Ananas et Saphira. Ananas. Oui, mais il a été pelé comme l'ananas. Ananias et Saphira. Les actes 5, 3 et 9. Et nous voyons, je vous dis qu'un bout du verset 3, que tu es menti à l'Esprit Saint. Pierre dit ça. Et plus loin, au verset 9, comment êtes-vous convenus entre vous de tenter l'Esprit du Seigneur ? Voilà, vous connaissez tout le reste. Le Saint-Esprit aide à faire le choix des bonnes personnes pour servir Dieu. Je pense là au passage où Étienne, il est... ceux qui devaient servir dans l'Église étaient choisis. En Actes 6, versets 3 et 5, « Jetez donc les yeux, frères, sur cet homme d'entre vous qui est un bon témoignage, plein de l'Esprit Saint et de sagesse. » Que nous établirons sur cette affaire. Et ce discours plut à toute la multitude, au verset 5, donc, et ils choisirent Étienne, homme plein de foi et de l'Esprit Saint, et Philippe, et Procor, et Nicanor, et Timon, et Parménas, et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Et moi, je crois que c'est aussi le Saint-Esprit qui initie pour que nous parlions de Dieu à quelqu'un, que nous prions même. Il inspire nos prières pour le salut de quelqu'un. C'est le fondement du témoignage, ça. Et le Saint-Esprit fait en sorte que même il aménage des choses, que quelqu'un qui recherche Dieu soit placé en face de quelqu'un qui peut lui annoncer le salut. Et je crois que c'est le Saint-Esprit qui organise les conversions, puisqu'on dit que... on reçoit le Saint-Esprit à la conversion. Donc c'est lui qui est là derrière. Et l'histoire de l'évangéliste Philippe est très parlante avec l'eunuque. En Actes 8, 29, il est dit que « Et l'Esprit, en majuscule, dit à Philippe, « Approche-toi, et joins-toi à ce char. » Et je dirais que pour nous, écoutons, parfois nous avons une petite voix, écoutons, va lui parler, parle de ça. Écoutons cette voix. Le Saint-Esprit est sûrement là derrière, n'est-ce pas? Quelque chose que j'avais presque oublié, que j'ai ajouté plus tard. Donc, et ça, il faut que je rouvre correctement. Jésus même a été envoyé par le Saint-Esprit lorsqu'il lui a dit d'aller dans le désert. En Luc 4, c'est bien, c'est différemment expliqué qu'en Matthieu 4, 1. Alors Luc 4, 1, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. D'ailleurs, ça confirme ce que j'ai dit au début. Jésus, homme sur terre, et le Consolateur était rempli du Saint-Esprit. Donc, il était avec lui. Ouais. Donc, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Parfois, le Saint-Esprit clarifie ou il chasse des doutes, comme il l'a fait pour Pierre. Il n'était pas sûr d'avoir compris que le salut était aussi pour les païens et qu'il devait aller l'annoncer à Corneille, en Actes 11, 12. Et l'Esprit, majuscule, me dit d'aller avec eux sans hésiter. Ça, c'est Pierre qui l'explique en acte. Et les six frères que voici vinrent avec moi et nous entrâmes dans la maison de cet homme. Parfois, le Saint-Esprit a empêché d'annoncer même l'évangile là où on pensait le faire, en acte 6 et 7. Et ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie. Et étant venus jusqu'en Mysie, ils essayèrent de se rendre en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Et je pense par rapport à ça, c'est pas toujours facile d'abandonner un projet de mission. Mais nous devons demander la sagesse de Dieu pour ça. À quel moment est-ce qu'il faut se rediriger, il faut abandonner. Il faut vraiment prier aussi parfois pour ça, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit, nous savons ça par rapport à des musulmans, par exemple, il s'exprime également en donnant des rêves. Il y a eu des conversions de musulmans. Moi, j'ai déjà entendu raconter ça plusieurs fois, qui ont rêvé, puis qui se sont convertis après. Et je pense que c'était un rêve, mais Paul, en acte 16, 9, quand il a vu le Macédonien, Paul vit de nuit une vision. Un homme macédonien se tenait là, le priant et disant, « Passe en Macédoine et aide-nous. » Et apparemment, c'est après qu'il y a eu l'église de Corinthe, un peuple nombreux. Et ça, c'était quelque chose de superbe. Moi, je ne sais pas si vous auriez peut-être aussi aimé, mais les disciples, quand Jésus était déjà ressuscité, qui passaient les 40 jours avec eux, mais en tout cas, ça devait contenir les 11 apôtres qui restaient, mais il n'était pas encore monté au ciel, Jésus. Il est dit qu'il leur souffla le Saint-Esprit. À ce moment précis, Jésus avait pris toute sa puissance divine, celle qu'il déploiera également lors de son retour. Ça, nous le lisons en Jean 20, 19 à 22. Jean 20, 19 à 22. Ça, c'est donc Jésus ressuscité le soir de ce jour qui était le premier de la semaine. Les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » C'était un groupe de privilégiés qui l'ont reçu avant la Pentecôte. En 2 Thessaloniciens 2, 7, il y a un passage où on attribue des fois quelque chose qui n'est probablement pas le cas. On dit que, je vais le lire, « Car le mystère de l'iniquité, ça agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore est disparu. Dans la Bible annotée, j'ai lu un commentaire qui enlève cette supposition que celui qui retient l'Antéchrist serait le Saint-Esprit. Pourquoi Paul il l'a pas dit clairement alors, si c'était ça, hein? Pourquoi il n'a pas dit c'est le Saint-Esprit qui va être enlevé? Le but de son épître aux Thessaloniciens, c'est que notre réunion avec le Seigneur, nous, l'Église, ne peut avoir lieu avant qu'on ait vu paraître l'homme impie. L'Église ne partira pas avant. Et je pense que, comme le Saint-Esprit, il est omniprésent, il ne peut pas disparaître même dans ce monde tumultueux. Il peut se cacher, il peut ne plus agir, mais il ne peut pas être enlevé pour laisser libre cours. Hein, on ne peut pas affirmer que c'est le Saint-Esprit qui partira quand l'Antichrist fera ses terreurs, n'est-ce pas? Et nous, notre préoccupation de témoignage doit donc être de gagner les âmes à Christ avant qu'ils ne viennent chercher l'Église. Et pas trop se focaliser à vouloir freiner l'immoralité croissante dans ce monde. Nous devons nous focaliser sur annoncer Christ, gagner les âmes à Christ. Et Jésus y confirme bien ce que nous appelons la Trinité par son commandement à la fin de Matthieu, le verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est une confirmation très frappante du Dieu trinitaire. Et puis, j'aimerais terminer, c'est une tellement belle prière. En 2 Corinthiens, c'est c'est quel chapitre, mais je pense que c'est la fin du chapitre. Hein. C'est la fin de Corinthiens à la fin, le verset 13. Certains, c'est peut-être le 13 et le 14. Et je terminerai par ça. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Si nous avons ça, nous avons tout. La grâce, l'amour de Dieu. Être unis autour de la table grâce au Saint-Esprit qui est notre chaîne spirituelle. Amen. Voilà.